Bon, merci à chacun pour votre patience. Je vais accélérer un peu pour mieux gérer mon temps dans la deuxième partie. Un mot étonne peut-être dans ce chapitre. L'apôtre Paul dit au verset 16 et 17, il parle de fierté. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi. Est-ce que c'est une fierté légitime? Il me semble que le verset répond en lui-même à cette question, puisqu'il dit qu'il est fier de l'œuvre de Dieu. C'est un peu plus clair dans certaines traductions que dans d'autres. Et je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi. Je crois, quand on sert le Seigneur, on peut être fier de travailler pour le meilleur des maîtres et dans le meilleur projet du monde. Jésus-Christ qui construit son Église, qui amène son royaume, on peut avoir une grande fierté de pouvoir avoir été choisi pour participer à ce projet. Il a un objectif clair pour son ministère. Je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour... Voilà l'objectif, amener les non-juifs à l'obéissance. Je ne sais pas, quand vous partagez l'évangile, quel est votre objectif? On dirait certainement le plus souvent, mon objectif, c'est que les gens soient sauvés. C'est un objectif louable, mais l'apôtre Paul le formule différemment ici quand même, pour amener les non-juifs à l'obéissance. Il dit la même chose au chapitre 1. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre. Pour faire quoi? Pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Peut-être que ça rappelle un peu ce que Jésus a dit à ses disciples quand il les a quittés. Il leur a demandé de faire des disciples de toutes les nations, de les enseigner à observer tout ce que il a prescrit. Ce que nous visons, ce n'est pas seulement des gens sauvés, mais des gens qui obéissent à Dieu. Et je crois que nos églises se porteront mieux si nous évangélisons de cette manière. L'apôtre Paul parle de la puissance de son ministère. Amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul n'a pas simplement prêché l'Évangile, mais il lui a été donné par l'Esprit Saint une puissance pour accomplir des signes et des prodiges. Donc il vous suffit de relire les actes des apôtres pour voir quelques-uns des miracles que l'apôtre Paul a accomplis en prêchant l'Évangile. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Je pense qu'il est en train de établir ou de défendre son autorité apostolique auprès des Romains à qui il écrit. Car, selon l'apôtre Paul, ces signes étaient les marques de l'apostolat. Chapitre 2 Corinthiens 12, 12, il dit ceci, car c'est par vous que j'aurais dû être recommandé, car je n'ai en rien été inférieur à ces super apôtres, bien que je ne sois rien. Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, personnellement, je pense que ce sont des signes qui ont été donnés aux apôtres pour authentifier leur ministère et leur donner l'autorité d'écrire les livres que nous avons dans le Nouveau Testament. On va voir l'étendue du ministère de l'apôtre Paul. Il dit quelque chose de très étonnant. Depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Est-ce que vous savez où c'est l'Illyrie? Je vais vous montrer sur une carte, sur cette diapo. Donc Jérusalem, vous situez facilement, je crois, à droite de votre écran. Alors l'Illyricum ou l'Illyrie est au nord de la Macédoine. C'est ce qui correspond aujourd'hui aux États baltes. Et l'apôtre Paul peut dire qu'il a abondamment répandu l'Évangile dans tous ses coins. En gros, tout le côté est de l'Empire romain. C'est tout à fait étonnant. Et maintenant, il fixe son objectif vers le côté ouest en voulant apporter l'Évangile jusqu'en Espagne. Alors, avait-il réellement évangélisé partout, même en Illyrie? Quelques réponses à cette question. Quand il dit qu'il a abondamment répandu l'Évangile, il ne peut pas vouloir dire qu'il a été dans chaque ville et chaque village. Mais on voit dans les Actes des Apôtres qu'il a sélectionné des villes importantes comme Éphèse, comme Corinthe ou Philippe, et que en établissant des églises dans ces endroits-là, où il est resté parfois 3 mois, 18 mois, il établit des têtes de pont pour l'Évangile dans des grandes villes. À partir de ces grandes villes, l'Évangile peut se répandre dans les régions autour. On sait aussi que le livre des Actes n'est pas un récit exhaustif. Luc, en écrivant, ne raconte pas tout ce que Paul a fait. Et puis, on peut imaginer qu'il s'agit d'une référence géographique un peu globale, un peu une expression. Peut-être, par exemple, si je dis que un pionnier de l'Évangile a annoncé l'Évangile en France, de Marseille jusqu'à Lille. Vous comprendrez qu'il ne s'est pas arrêté dans chaque petit village, mais qu'il a parcouru cette distance, peut-être en laissant l'Évangile dans des points majeurs entre Marseille et Lille. On sait qu'il est resté un temps en Macédoine, qui est la province juste à côté de l'Illyrie, donc il est tout à fait probable qu'il soit aussi allé en Illyrie pour annoncer l'Évangile. En tout cas, je suis admiratif du nombre de kilomètres qu'il a parcouru. Il a un ministère particulier, on l'a déjà dit, ciblé vers les non-juifs, un ministère de pionnier. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été annoncé. Je pense qu'il a deux motivations pour cela. D'abord, pour ne pas construire sur les fondations posées par un autre. Alors, le terme fondation pour Paul, ça rappelle d'autres textes que je vais vous montrer. Pour lui, c'était le travail d'un apôtre que de poser des fondements. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, on peut dire que Paul se spécialise dans ses fondations conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, encore une référence à la grâce. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Donc il a un appel particulier pour poser des fondements. Et il dit dans Éphésiens au chapitre 2 que les chrétiens d'Éphèse et tous les chrétiens ont été édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, ayant ce ministère particulier, il veut aller toujours vers des régions où l'évangile n'a pas été annoncé, mais aussi pour accomplir cette prophétie biblique qu'on trouve dans qui est une citation d'Ésaïe 52:15. Comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. L'apôtre Paul poussait en avant. C'est lui peut-être plus même que les autres apôtres qui a compris que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé que l'Évangile était pour toutes les nations. Et il se pousse pour accomplir cette prophétie. Dans cette section, donc du verset 14 au verset 21, Il me semble que l'apôtre Paul est en train d'établir son autorité apostolique. En parlant de son ministère, en parlant de la grâce d'avoir reçu ce ministère, en parlant de l'étendue de son ministère, en parlant des signes miraculeux, pourquoi veut-il faire cela? Plusieurs raisons. D'abord, donner du poids à son écrit. Il a écrit cette lettre à l'église de Rome. De quel droit le fait-il? Avec quelle autorité? Avec l'autorité d'un apôtre. Il prépare aussi donc son accueil à Rome. Il vient leur rendre visite. De quel droit s'impose-t-il à l'Église? Parce qu'il est un apôtre. Et il prépare aussi la demande qu'il va formuler dans les versets que nous allons lire très bientôt, d'être accompagné dans sa mission vers l'Espagne. S'il a une autorité apostolique, il peut demander cette aide à cette Église. Un petit rappel du plan, on a parlé des pratiques de l'apôtre Paul dans ces versets 14 à 21. Nous allons maintenant prendre connaissance des projets de l'apôtre Paul dans les versets 22 à 33. Essentiellement, dans ce passage, l'apôtre Paul va solliciter la collaboration de l'Église de Rome pour la mission en Espagne. Je trouve que c'est un texte très intéressant. Petit rappel aussi de la question que je vous ai posée tout au départ. Comment Paul savait-il qu'il allait bénéficier de la pleine bénédiction de Dieu sur son projet? Pour quelle raison? Je vous laisse encore réfléchir à cette question. Nous y reviendrons. Je remarque que ce projet a été mûri dans le temps par l'apôtre Paul. Peut-être sait-il qu'il a été béni parce que ce projet est un fardeau sur son cœur depuis longtemps. Il dit au verset 23, depuis bien des années, j'ai le vif désir de vous rendre visite. Verset 22-23, c'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile côté est de l'Empire. Mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions, c'est-à-dire de Jérusalem en Illyrie, il veut aller à Rome et puis en Espagne. Donc tout cela a pris du temps, mais tout en faisant cela, il avait déjà en tête ce projet pour Rome et pour l'Espagne. Au chapitre 1, il leur a dit ceci, je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Donc, déjà en écrivant, depuis longtemps, l'apôtre Paul pense à ce projet. Son projet nécessite des partenaires. Il dit ici, j'ai le vif désir de vous rendre visite, mais pas seulement de le rendre visite quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas. C'est ce verset en particulier qui me permet de dire que l'épître aux Romains est peut-être avant tout une lettre missionnaire. L'apôtre Paul écrit toute cette doctrine dans les premiers chapitres pour être certain que l'Église de Rome soit sur la même longueur d'onde que lui pour partager l'Évangile. Et il prend du temps dans cette épître pour leur dire que juifs et non-juifs sont perdus sans l'Évangile. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment est-ce qu'ils vont entendre parler s'il n'y a pas de prédicateur? Et comment est-ce qu'il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Déjà, dans le chapitre 10, il les prépare pour cette demande qu'il leur fait. Au chapitre 15, verset 23, il souhaite recevoir leur aide pour se rendre en Espagne. Alors, je remontre cette carte avec un peu plus de détails. Paul est à Corinthe quand il écrit, lors de la fin de son troisième voyage missionnaire, et il leur fait part d'un projet de trois voyages. premier voyage, il doit aller de Corinthe à Jérusalem. Vous allez me dire, Jérusalem, ce n'est pas tellement la direction ni de Rome ni de l'Espagne. On verra pourquoi tout à l'heure. De Jérusalem, il veut se rendre à Rome, deuxième voyage, et de Rome, il veut aller en Espagne pour partager l'Évangile. Voici le projet dont il leur fait part. Quel genre d'aide exactement cherche-t-il à Rome? Il n'est pas très explicite en leur parlant d'aide, mais on peut deviner. Peut-être souhaite-t-il que l'Église de Rome soit un agent d'église d'envoi. Il bénéficie déjà de l'aide de l'Église d'Antioche. Antioche, si je reviens à la carte, c'est au nord de Jérusalem, mais la ville d'Antioche, qu'il a toujours envoyé en mission, il est toujours retourné vers cette église quand il revenait de ses voyages missionnaires pour rendre des comptes. L'église d'Antioche est très très éloignée d'Espagne, surtout avec les moyens de transport et de communication qu'il y avait à l'époque. Je pense qu'il se dit que Rome serait une bonne base à partir de laquelle atteindre l'Espagne. Donc, peut-être cherche-t-il une église d'envoi, une église qui peut le recommander pour cette mission en Espagne. Il cherche de la prière, ça c'est évident, au verset 30 à 32, on verra les requêtes de prière qu'il leur laisse en bas de sa lettre missionnaire. Vous savez, à la fin de chaque lettre de missionnaire, il y a des requêtes de prière avec une petite liste de puces. Nous verrons trois requêtes de prière que Paul leur donne. Peut-être cherche-t-il des équipiers. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous vous rendez compte qu'à droite et à gauche, dans les villes que Paul a visitées, dans les églises qu'il a implantées, il voit de temps en temps une personne consacrée et douée, comme un Timothée à Lystre, et il demande à l'église s'il peut l'amener avec lui en mission. Et à Acte 20 en particulier, on voit une très grande équipe missionnaire de Paul, de personnes qui viennent de différentes ville. Peut-être cherche-t-il des gens de l'Église de Rome qui pourront l'accompagner en Espagne. Peut-être cherche-t-il des finances. Ce n'est pas impossible qu'il ait besoin de finances pour ce voyage. Il ne le dit pas explicitement. Peut-être cherche-t-il une aide logistique. Peut-être des conseils même. Il sait certainement qu'à Rome, il pourra trouver des personnes qui connaissent l'Espagne. Peut-être qu'il y a des Espagnols dans l'église de Rome. Pour l'instant, le nom de Jésus-Christ n'a pas été prononcé en Espagne. Mais les gens voyageaient beaucoup à l'époque. Avec la Pax romane, le voyage était relativement facile au premier siècle, beaucoup plus facile qu'au Moyen Âge, par exemple, parce que l'Empire romain contrôlait tout et apporter une certaine sécurité dans la région. Donc, il y avait des gens qui voyageaient pour des raisons de commerce, des militaires qui voyageaient et des administrateurs, des employés de l'Empire qui allaient à droite et à gauche. Donc, il sait qu'à Rome, certainement, il rencontrera des gens qui connaîtront l'Espagne. Il me semble que c'est ces aides-là qu'il cherche dans l'église de Rome. Mais il ne cherche pas que de l'aide. Une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous. Et au verset 32, ainsi je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Rome, c'est un bon arrêt pour Paul entre Jérusalem et Espagne. Il veut se reposer chez eux et avoir certainement beaucoup de joie de rencontrer ces gens parce que il connaît, au chapitre 16, on verra qu'il connaît 26 personnes dans l'église de Rome. C'est conséquent. Et il connaît cette église de par sa réputation, même si lui n'a jamais rendu visite encore à l'église de Rome. Au chapitre 1, il dit, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous, tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt que afin que nous soyons encouragés ensemble, chez vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc Paul a un désir simplement de voir des gens qu'il connaît, de découvrir d'autres gens et d'être encouragé dans l'Église. Pourquoi est-ce que Paul veut aller à Jérusalem d'abord? C'est un projet en deux étapes. D'abord Jérusalem, ensuite l'Espagne. Il y va pour servir les saints. Qu'est-ce qu'il entend par cela? Verset 26. En effet, les églises de la Macédoine et l'Achaïe, donc deux régions de la Grèce, ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Si vous voulez connaître plus sur cette collecte d'argent que l'apôtre Paul a organisée dans ses églises en Grèce, en Asie mineure aussi, vous pouvez lire Galates 2, de 9 à 10. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 16, de 1 à 4, et puis 2 Corinthiens, deux chapitres, chapitres 8 et 9, où il parle beaucoup de cette collecte. On va voir maintenant quelle importance cette collecte avait pour lui. Il veut s'y rendre à Jérusalem avec cet argent parce qu'il s'acquitte ainsi d'un engagement qu'il a pris auprès de Jacques, de Pierre et de Jean, qui étaient des piliers de l'église de Jérusalem. On voit ça dans Galates 2. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, eux, vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Les apôtres de Jérusalem lui ont demandé de se rappeler des pauvres à Jérusalem. Pourquoi la pauvreté? Dans Acte 11, il est question d'une famine qui aurait frappé Jérusalem. Mais il y a peut-être une deuxième raison aussi. On voit dans le livre des Actes que les premiers croyants de Jérusalem, qui étaient tous des Juifs, les premiers disciples de Jésus ont été très persécutés par les Juifs et ils doivent ainsi souvent partir de Jérusalem. Il faut essayer d'imaginer, peut-être si ça peut vous aider, une illustration, une situation analogue. Si nous sommes dans un pays musulman, je ne sais pas, le Maroc ou encore plus fort en Arabie Saoudite ou un pays comme cela. Un musulman qui se convertit à Jésus-Christ. Supposons que ce musulman a un travail. Il risque de perdre son travail. Supposons qu'il a le soutien de sa famille. Il habite chez ses parents. Il sera mis dehors de sa famille. Supposons qu'il a un petit commerce. Ce commerce sera boudé par les musulmans parce qu'ils voudront pas aider cette personne devenue chrétienne. Je crois que la situation a été similaire à Jérusalem. Pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, ils étaient souvent exclus de leur famille, persécutés, leur commerce boycotté. Il veut aussi faire cette collecte. Il estime que les non-juifs ont un devoir vers leurs frères juifs croyant en Jésus. C'est ce qu'il dit au verset 27. Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. C'est un principe que l'apôtre Paul rappelle dans le livre des Galates, que ceux qui sont enseignés doivent aider ceux qui enseignent avec leurs biens matériels. L'apôtre Paul estime que les non-juifs doivent quelque chose aux juifs qui leur ont apporté l'évangile. Il le leur a dit plus ou moins aussi au chapitre 11, où il rappelle aux non-juifs, vous, vous êtes des branches greffées simplement sur cet arbre cultivé par Dieu, dont les racines sont les patriarches et le tronc, le peuple juif. Il y a une autre raison pour cette collecte quand même, et c'est force, je crois, de montrer aux Juifs messianiques de Jérusalem que les païens convertis d'Asie et de l'Europe sont véritablement leurs frères et sœurs, au même niveau, dans la même alliance. Nous voyons ça dans la requête de prière qu'il leur donne au verset 31. Écoutez cette requête de prière étonnante. Priez afin que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Quand il parle des saints, il parle des frères et sœurs à Jérusalem. Imaginons que je vous propose de venir rendre visite à votre église et de vous apporter un don de 50 000 euros ou francs suisses pour aider votre œuvre. Est-ce que j'aurais besoin de demander des prières à droite et à gauche pour que ce don soit bien accueilli? Je crois que il serait bien accueilli. Pourquoi donc Paul doit-il demander de la prière? Parce que nous voyons quand même tout au long des actes des apôtres, tout au long des épîtres, qu'il y avait quand même des petites tensions entre des juifs nés de nouveau, disciples de Jésus, et les non-juifs, nés de nouveau, disciples de Jésus, dans les mêmes églises, avec des discussions sur ce qu'il faut manger ou pas, s'il faut être circoncis ou pas, s'il faut fêter les fêtes de l'Ancien Testament ou pas. Et l'apôtre Paul, tout au long de ses écrits, il essaie de réconcilier ces deux communautés. Et je crois que cette collecte est une manifestation concrète de l'amour des chrétiens non-juifs pour leurs frères et sœurs juifs, et il prie que ce don soit bien accueilli. Pour qui cette collecte? Est-ce que c'est pour tous les juifs de Jérusalem? Non. Il s'agit d'un don pour les saints, pour servir les saints, ou, il redit un peu plus loin, pour servir les pauvres parmi les saints. Je le souligne parce que j'ai déjà vu ce texte un peu abusé, à mon sens, dans un article de journal chrétien, où on incitait les chrétiens à soutenir matériellement l'État d'Israël pour leur effort de colonisation, leur effort de guerre. Je ne pense pas que Paul collectait de l'argent pour ce genre de choses. Il collectait de l'argent pour aider les frères et sœurs pauvres de l'Église de Jérusalem. Notons maintenant que il demande de la prière pour ce projet. Lui-même a prié à plusieurs reprises et depuis longtemps au sujet de ce projet. Et maintenant, il demande à ses frères et sœurs de Rome de prier pour ce projet. Et notez le langage fort qu'il emploie pour solliciter la prière. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Vous voyez l'importance que l'apôtre Paul accorde à la prière. Il sait que ce ministère ne sera pas béni si il n'est pas entouré par la prière. C'est un petit encouragement que je peux vous donner dans votre service, aussi humble soit-il. N'hésitez pas à demander à un frère, à une sœur de prier pour vous. Peut-être enseignez-vous des enfants à l'école de dimanche. Peut-être simplement vous allez rendre visite à un non-croyant pour partager l'évangile. Vous pouvez d'abord envoyer un message à un frère ou une sœur, prie pour moi, je vais essayer de témoigner à mon voisin. Cette prière est trinitaire. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils, par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Je crois que nous avons aussi un modèle. Nous prions à Dieu le Père par notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, comme il nous a enseigné, et par l'amour de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit aussi, par l'inspiration de l'Esprit. Les trois sujets de prière qu'il leur donne. Premier sujet de prière, prier afin que je sois protégé des incrédules de la Judée. Pourquoi aurait-il besoin d'être protégé? Eh bien, tout simplement parce que l'apôtre Paul est persona non grata à Jérusalem. Il est considéré par les Juifs là-bas comme un traître. Il était un des leurs. Il était même l'étoile montante du judaïsme. Mais maintenant, il enseigne partout le nom de Jésus-Christ. Et il fait très bien de demander la prière pour de la protection, parce que quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que en retournant à Jérusalem, il y a une émeute dans le temple où Paul se présente et que les Juifs ont failli le lyncher, disant faussement qu'il avait introduit un non-juif dans le temple et qu'il est sauvé in extremis par un centurion romain, en réponse, je pense, aux prières de l'Église de Rome et peut-être d'autres chrétiens à qui il a sollicité la prière. Deuxième requête, nous en avons déjà parlé, que les dons soient bien accueillis par l'Église de Jérusalem. Vous vous rappellerez aussi, en lisant Actes chapitre 20, 21, que Paul reçoit un accueil, je qualifierais de prudent de la part des responsables de l'Église de Jérusalem. Ils lui disent, Paul, nous avons beaucoup de Juifs dans notre Église, évidemment, très zélés pour la loi. Il faut que tu fasses attention à ton image. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais Paul n'est peut-être pas aimé de tous dans l'Église de Jérusalem. Vous lirez le chapitre pour voir vous-même. Troisième requête de prière, si c'est la volonté de Dieu, trouvez un peu de repos au milieu de vous. Je crois qu'il était un peu fatigué, l'apôtre Paul, et vous verrez, il avait bien besoin de repos quand il arrive enfin à Jérusalem. Importante à remarquer, la prière de Paul est soumise à la volonté de Dieu. Ainsi, je pourrai venir chez vous dans la joie si c'est la volonté de Dieu. Je ne peux pas assez souligner, je pense que bien que Paul ait ce projet qui lui tienne vraiment beaucoup à cœur d'aller en Espagne, même s'il pense avoir la pleine bénédiction de Dieu, il prie en disant, mais que la volonté de Dieu soit faite. Alors bien sûr, il obéit ici au modèle que Jésus-Christ nous a donné dans la prière. En Gethsemane, quand il demande à ce que cette coupe soit éloignée de lui, mais qu'il rajoute aussitôt, mais pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. L'apôtre Jacques aussi le dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela. Donc, dans la prière, même quand nous prions pour des choses où nous sommes à peu près sûrs que c'est la volonté de Dieu, je veux le servir, je veux la conversion des âmes, c'est important de dire si Dieu veut, j'irai là-bas. Et nous allons voir que l'apôtre Paul a bien fait de donner cette autorité à Dieu. Alors, Dieu n'a pas besoin de notre autorisation, mais quand nous le disons, quand nous l'autorisons à changer nos plans, ça se passe mieux pour nous. Parce que ça ne va pas se dérouler comme l'apôtre Paul aurait voulu. Un projet qui se déroule pas comme prévu. Je vais essayer de vous montrer ce qui se passe entre la formulation du projet qu'il exprime à l'église de Rome et la réalisation, je dis partielle, du projet. Nous savons qu'il écrit en 57 ou 58, il écrit aux Romains, il leur parle de ce projet d'aller en Espagne. En 58, donc, il entreprend son voyage vers Jérusalem. Tout au long, plusieurs prophéties qui lui sont données comme quoi il va souffrir à Jérusalem. Et en 58, à Jérusalem, il est accueilli par les anciens de manière prudente. Il y a l'émeute, il est arrêté et mis en prison pendant 3 ans, de 58 à 60. Il sera en prison et il va se présenter à trois procès avec Festus, avec Félix, avec Agrippa. Et enfin, il fera appel à César. Et c'est de cette manière qu'il se rendra à Rome, peut-être pas comme missionnaire envoyé par l'Église de Jérusalem ou Antioche, comme il aurait souhaité, mais comme prisonnier. Et on sait en plus qu'il y aura le naufrage dans ce voyage et qu'il n'arrivera à Rome que donc 3 ou 4 ans plus tard, fatigué de son emprisonnement, du naufrage. Et il sera confiné à domicile, mais il pourra encore prêcher l'Évangile. J'aimerais partager ces quelques versets à la fin du livre des Actes qui décrivent comment Paul est arrivé à Rome. Donc il faut vous rappeler 3 ans de prison dans des circonstances difficiles où on mange peut-être pas toujours à sa faim, où on a froid, où on est malade. Et puis ce voyage si difficile avec un naufrage. Mais là, nous touchons à terre en Italie. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons fait le trajet jusqu'à Pouzzoles. Là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux. C'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Les frères de Rome qui avaient reçu nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au Forum d'Appius et aux trois tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et pris courage. J'aime bien essayer d'imaginer cette scène, Paul si fatigué, Paul qui veut aller à Rome depuis si longtemps, Paul qui veut aller en Espagne et qui voit que des frères de Rome se déplacent pour venir à sa rencontre à quelques kilomètres de Rome. Il reprend courage, ce qui signifie que il avait un peu perdu courage. Et la suite. Donc peut-être que c'est une des questions que vous vous posez. Est-ce que Paul a pu enfin aller en Espagne comme c'était son projet? Nous pensons qu'il a été relâché une première fois de prison à Rome en l'an 62. Et nous trouvons quelques indices dans 1 Timothée et dans Tite qui suggèrent des déplacements donc ultérieurs à cet emprisonnement à Rome, ultérieurs donc à Acte 28. Et puis nous avons une référence dans l'histoire de l'Église, Clément de Rome, quand même pas trop éloigné de Paul, et situé à Rome, un premier évêque de Rome, j'emploie ce terme, dit que Paul serait allé aux limites de l'Occident. Est-ce qu'il entendait l'Espagne par cela? Nous n'avons pas de certitude par rapport à cela. Je ne peux pas vous l'affirmer, mais ça reste une possibilité. Nous revenons à notre question de départ. Pourquoi est-ce que Paul avait cette confiance qu'il irait avec une pleine bénédiction de Christ? C'est plusieurs choses que nous avons dit déjà, mais que je résume ici maintenant. Comme il a déjà reçu la grâce de Dieu alors qu'il était un ennemi de l'Évangile et qu'il a été appelé par Jésus-Christ lui-même, il est certain que Dieu veut bénir son ministère. Comme il a discerné son appel aussi et que cet appel a été confirmé par les apôtres. Je ne sais pas si je l'ai mentionné ça quand je parlais d'appel, de service ciblé. C'est les autres apôtres, comme on l'a vu dans Galates 2, qui ont confirmé cet appel vers les non-juifs. Il est donc certain de cet appel. Et puis, Il annonce l'évangile en comptant sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Il voit que l'Esprit lui a donné la puissance d'accomplir certains signes et compte sur cette puissance encore dans son service. Paul n'oublie pas les pauvres, c'est-à-dire qu'il s'acquitte des engagements qu'il a pris auprès de Pierre, Jacques et Jean, sachant que s'occuper des pauvres, c'est être près du cœur de Dieu aussi. On voit ça dans les évangiles, on le voit tout au long des prophètes de l'Ancien Testament. Dieu se soucie des pauvres. Paul ne les oublie pas dans son ministère. Paul sait qu'il y aura une bénédiction aussi parce qu'il ne travaille pas en solo. Il travaille en équipe. Il cherche l'appui des églises. J'ai connu quelques personnes qui ne se souciaient pas beaucoup de la validation de leur ministère par d'autres frères et sœurs, par une assemblée, par un groupement d'assemblées. Je crois que c'est imprudent. Nous sommes tous, moi je le suis, si peu objectifs par rapport à nous-mêmes, très subjectifs. Et on prend quelquefois nos désirs pour la volonté de Dieu. Mais c'est tellement bien quand c'est confirmé par des frères et sœurs autour de nous. Il sait qu'il y aura la bénédiction aussi parce qu'il entoure ce projet, ce ministère de prière. Il sollicite avec ferveur les prières de l'Église de Rome et certainement les autres églises qu'il connaissait. Et puis, en dernier lieu, Paul se soumet à la volonté souveraine de Dieu. Il dit à Dieu, je voudrais aller à Rome, je voudrais annoncer l'Évangile en Espagne, mais seulement si toi tu veux que ta volonté soit faite. Une prière de bénédiction pour vous, et puis vous pourrez poser vos questions. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Romains 15, 33. Cette épître a la particularité d'avoir trois fins, trois bénédictions, au verset 13 du chapitre 15, au verset 33 du verset 15, et puis à la fin du chapitre 16 aussi. Celle-là, je trouve, belle. J'ai besoin de la paix de Dieu, vous aussi, je pense, dans le ministère. Voilà, je repasse, la main, pour des questions.
Merci, Brad, pour la deuxième partie de cet exposé. Et puis, on va prendre quelques questions, notamment une question par rapport à ces prières qui sont mentionnées à la fin de ce chapitre. L'un de nos auditeurs pose la question ce soir, pensez-vous que la Bible enseigne que l'on doit prier principalement à Dieu, occasionnellement à Jésus et jamais directement au Saint-Esprit, ou bien on peut s'adresser à la troisième personne de la Trinité?
Alors, c'est une bonne question à laquelle nous devons réfléchir, la Bible en main. Je dirais quand même qu'il y a un précédent pour prier d'abord principalement à Dieu le Père, en commençant par Jésus qui nous a enseigné à prier notre Père qui est aux cieux. Et en s'appuyant sur tous les autres exemples de prière dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament qui sont adressés prioritairement à Dieu. Et puis Jésus qui nous demande de prier en son nom. Après, il y a quelques petits exemples de prière à Jésus dans le Nouveau Testament. Il y a Étienne. Lors du martyre d'Étienne, où il voit le Seigneur Jésus à la droite de Dieu, et il dit, je remets mon esprit, Seigneur Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Donc voilà une prière adressée directement à Jésus. Et puis certainement dans l'Apocalypse, nous voyons des louanges adressées à l'agneau, et donc directement à l'agneau. Alors, à ma connaissance, il y a un seul exemple de prière à l'esprit. On le trouve dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ézéchiel, où Dieu, qui inspire le prophète, dit à Ézéchiel, prophétise, dis à l'esprit de souffler. Donc, il y a un exemple. C'est pourquoi je ne condamnerai pas quelqu'un qui prie à la troisième personne de la Trinité, mais je dirais que quand même, l'enseignement et l'exemple tendent à nous dire qu'il faut prier au Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit.
Merci pour cette réponse, cette question souvent débattue. Il y a aussi une autre question qui fait intervenir le Saint-Esprit. Donc, c'était dans le premier exposé, vous avez mentionné deux ingrédients nécessaires pour l'édification. Des bonnes dispositions, l'amour ou la bonté, et puis la connaissance. Ça, c'était les deux éléments. Et l'un de nos auditeurs pose la question, ne devrait-on pas rajouter également se soumettre à la direction du Saint-Esprit? Et puis, il cite un exemple, on peut avoir les deux premiers points, mais sans l'Esprit, on peut, par exemple, ne pas parler au bon moment ou de la mauvaise manière, ce qui peut conduire parfois au légalisme ou au laxisme, ou même au manque de puissance. Qu'en pensez-vous?
Alors, c'est un bon rajout, je dirais, à ce que j'ai dit. J'ai mentionné ces deux éléments simplement parce que j'étais en train de commenter un verset où on trouvait ces deux éléments. Dans ce verset, même l'apôtre Paul ne mentionne pas l'esprit, hein, et un peu plus loin, il mentionne la puissance de l'esprit. Donc, c'est tout à fait légitime de dire qu'il nous faut nous appuyer sur l'esprit. J'aime bien penser à ces paroles de Jésus aussi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, oui, écoutez la voix de l'Esprit Saint, tout en, encore une fois, se méfiant un peu de nous-mêmes et ne pas prendre nos désirs pour la voix du Saint-Esprit.
Ouais. Ça paraît prudent. Merci pour cette question. Puis on va traiter une dernière avant qu'on laisse conclure Claude Henry. Dans ce chapitre 15, tu as mentionné que Paul défendait son apostolat. Et puis un frère nous pose la question, peut-on appeler Paul le 13e apôtre de Jésus-Christ ou est-il un apôtre à part?
Alors, ni l'un ni l'autre de ces termes sont utilisés dans le Nouveau Testament. On ne parle pas de 13e apôtre. Mais Paul réclame le titre apôtre. Des fois, en introduction à ses lettres, Paul apôtre. Il est pleinement apôtre. Déjà parce qu'il a été appelé par Jésus-Christ et il a eu cette rencontre avec Jésus-Christ vivant sur la route de Damas, et puis apôtre de par les signes miraculeux qui lui ont été donnés. Et puis il le dit lui-même aussi apôtre de par le ministère qu'il a eu, quand il dit aux Corinthiens qu'il est comme un père spirituel pour eux, il leur a annoncé l'évangile. Il a eu un ministère apostolique dans ce sens. Donc, au risque de décevoir la personne qui a posé la question, je n'emploie pas le terme 13e apôtre ni apôtre à part. Enfin, ça a peu
C'est
d'importance
un
pour moi.
apôtre, tout court. D'accord, ben merci beaucoup, Brad. Et puis on va laisser à Claude Henry le soin de conclure la soirée.
Merci beaucoup Brad pour cette présentation concernant ce chapitre 15 de l'Épître aux Romains. C'est toujours émouvant de voir cet apôtre qui a quand même écrit la moitié du Nouveau Testament et de voir avec quelle humilité il a fait son service, son ministère tout au long de sa vie, comment il a été soumis finalement à la direction de l'esprit, à la direction du Seigneur. Et je retiendrai une des dia de ta présentation, quand tu as parlé que nous recevons ce ministère par grâce, enfin, un ministère par grâce. C'est surtout l'apôtre Paul qui en a parlé, mais finalement c'est pour nous tous la même chose. C'est vrai que quand on parle de la grâce, on parle souvent de la grâce par rapport au salut. Il y a aussi une grâce, mais on oublie peut-être que le ministère, le don, tout ça, c'est accordé par grâce, par Dieu. Et tous, nous recevons quelque chose. Et ce que je retiens, c'est ces cinq mots que tu as mentionnés. C'est que si on est conscient de cette grâce, d'être nommé quelque part collaborateur de Dieu, il peut y avoir cette reconnaissance envers Dieu, cette humilité aussi, parce que finalement rien ne vient de nous. Et puis un courage particulier pour le travail, parce que c'est vrai que parfois ça peut être compliqué, difficile, mais savoir qu'on le fait pour Dieu, parce que Dieu nous l'a demandé. Apprendre aussi à être patient envers les autres, ça c'est un point souvent compliqué à mettre en pratique. Et puis peut-être aussi savoir que finalement Dieu est avec nous, donc il n'y a pas besoin de chercher quelque chose en nous-mêmes pour manifester quelque chose de notre personne. Et voilà, c'est cinq points qui me semblent résumer finalement ce que l'apôtre Paul a montré, alors qu'on puisse être effectivement des imitateurs de l'apôtre Paul dans tout ce qu'il a accompli. Et on vous invite donc pour la suite, pour la fin de cette étude sur l'Épître aux Romains, donc dans 2 semaines, lundi 19 janvier, avec Brad, pour parcourir ce dernier chapitre, le chapitre 16 de l'Épître aux Romains. Alors je vous souhaite une bonne soirée à chacun, que vous puissiez continuer à méditer tout ce qui a été dit ce soir et que vous puissiez être encouragés dans votre marche chrétienne pour les jours qui viennent. Merci encore Brad et à bientôt.
Bonsoir à tous, merci pour votre écoute.
Bonsoir.